La scission de la communauté bouddhique. Bien que pacifique, le monde bouddhiste n'était pas exempt de différences, ni même parfois de controverses. Comme les communautés bouddhistes d'Inde devinrent de plus en plus importantes par le nombre et de plus en plus étalées sur le plan géographique, différents styles de pratiques émergent. Par exemple, certains moines étaient favorables à une interprétation stricte des règles de discipline, alors que d'autres adoptaient une approche plus libérale. Pour traiter les différents sujets de préoccupation qui divisaient le Sangha, un second concile bouddhiste fut tenu à Vaishali, environ 100 ans après le premier. Dans les différents comptes rendus de ce concile, à la fois ceux écrits par les historiens occidentaux et ceux que donnent elles-mêmes les diverses traditions bouddhiques, on trouve quelques désaccords sur ce qui se passa exactement lors de ce conseil. Tout le monde s'accorde pourtant pour dire que le second concile entraîna le premier grand schisme à l'intérieur de la communauté bouddhiste. En fonction du témoignage que l'on prend, on trouve soit que plusieurs milliers de moines furent expulsés du concile, soit qu'ils partirent de leur plein gré parce qu'ils avaient la conviction que les autres interprétaient trop étroitement l'enseignement du Bouddha. Du second concile émergent deux principaux groupes de bouddhistes. Ils se nommaient les anciens, Shtavira en sanskrit, Thera en pali. Il s'agissait de ceux qui se considéraient comme les gardiens de l'enseignement d'origine du Bouddha. La grande communauté, Mahasanghika en sanskrit, ses membres adoptèrent une interprétation plus libérale des paroles du Bouddha qui, croyaient-ils, correspondaient à son intention d'origine. Nous mentionnons ces deux anciens groupes parce que leurs descendants spirituels évoluèrent finalement pour former les deux principales traditions bouddhiques d'aujourd'hui. Il s'agit du Theravada, le nom signifie « école des anciens ». Cette tradition est parfois appelée la tradition du Sud car elle se diffusa principalement dans les pays de l'Asie du Sud comme le Sri Lanka, la Birmanie et la Thaïlande. Du Mahayana, les diverses traditions du Nord pratiquées en Chine, en Corée, au Japon, au Tibet, en Mongolie, etc., qui composent le grand véhicule. N'oubliez pas, la manière dont les différentes traditions se séparèrent et évoluèrent, surtout au cours des premiers siècles du bouddhisme, est un sujet délicat, c'est le moins que l'on puisse dire. En raison de sa complexité et du fait que les opinions le concernant dépendent de la tradition suivie, nous ne vous proposons ici qu'une esquisse très grossière du processus. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, nous vous suggérons de consulter différents livres qui le traitent et d'essayer ensuite de démêler vous-même cette histoire complexe. Deux siècles après la mort du Bouddha, on comptait dans toute l'Inde au moins 18 écoles bouddhistes distinctes actives, et peut-être même jusqu'au double. Chacune avait sa propre version de l'enseignement du Bouddha et sa propre manière de l'interpréter et de le mettre en pratique. Aussi chaotique que la situation puisse sembler, l'existence de toutes ces écoles différentes n'était pas nécessairement une mauvaise chose, en particulier parce qu'il semble qu'elles ne s'affrontèrent jamais mutuellement ailleurs que sur le plan du débat philosophique. Ces divisions et subdivisions de la communauté bouddhique à cette période des débuts du bouddhisme ne devraient pas trop vous surprendre. Après tout, le Bouddha lui-même n'avait pas dispensé son enseignement exactement de la même façon à tous ses disciples. Prenant en compte les différences dans l'intérêt de ses disciples et en fonction de leurs capacités intellectuelles respectives, il enseigna de la manière la plus utile à chaque public différent. Il en résulte que son enseignement, surtout la partie relative à la nature du soi, voire le chapitre 13 dans lequel nous nous attaquons à ce sujet, peut être interprété de plusieurs manières. Il est donc bien naturel que les générations de bouddhistes qui suivirent se regroupèrent dans des écoles identifiées comme représentant la position philosophique qui correspondait le mieux à leur propre vue. En dehors des différences purement philosophiques, d'autres divergences émergèrent parmi les bouddhistes, concernant pour certains les normes de la conduite acceptable et pour d'autres la langue dans laquelle était dispensé l'enseignement. Le Bouddha encourageait ses disciples à rendre largement accessible aux autres l'instruction qu'ils avaient eux-mêmes entendue, et les exhortait à faire de la sorte dans leur langue maternelle. De cette manière, tout le monde, et pas seulement les personnes lettrées et celles ayant reçu une éducation supérieure, pourrait bénéficier du Dharma. L'Inde était alors un pays avec une multitude de langues différentes, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Et ces différences linguistiques contribuèrent aussi à donner à chaque école son propre caractère, son propre parfum.